Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut à toutes et salut à tous, bienvenue dans le Rendez-vous Tech, le podcast où on vous parle technologie, internet et gadgets. Et ce n'est pas Patrick Béja qui est derrière cet épisode 399 qui est enregistré en avril 2021, mais c'est Guillaume Vendée. Vous m'avez déjà entendu à quelques reprises dans des moments où Patrick n'est pas forcément disponible pour vous délivrer son podcast hebdomadaire. Eh bien, une fois n'est pas coutume, si vous m'entendez, c'est que Patrick n'est pas disponible parce qu'il a bien mieux à faire que de surveiller l'actualité tech, mais il s'occupe de son second enfant. Comme vous le savez, il est papa pour la seconde fois. Donc j'ai l'immense plaisir et l'immense honneur de succéder à Patrick cette semaine pour vous délivrer l'essentiel de l'actu tech et tenter de vous la rendre compréhensible. Et je ne suis pas tout seul en plus pour cet épisode. Je suis accompagné d'une voix que vous avez l'habitude d'entendre dans le podcast. C'est celle de Kassim Ketfi, journaliste chez Frandroid. Salut Kassim.
Salut à tous. J'étais un peu choqué, tu vois, dans le sens vraiment de... d'entendre ta voix plutôt que celle de Patrick, surtout que je regarde le conducteur et je vois salut aux animateurs Patrick Béja. Donc
c'est pas bon ça.
Je suis
choqué. C'est une usurpation complète. Je vais mettre à jour ces éléments-là. Ah, c'est vrai que j'ai pas tout à fait la même rigueur que Patrick dans la construction du conducteur.
Le fouet n'est pas aussi.
Alors il me l'a laissé malgré tout. On a passé tout ça au gel hydroalcoolique, mais j'ai son fouet. Donc si tu veux que je m'en serve pour essayer de rythmer l'émission à certains moments, ce sera possible. Merci beaucoup en tout cas d'écouter le Rendez-vous Tech. On a plusieurs jolis sujets qui tournent autour de certaines acquisitions des grandes entreprises de la tech et des conséquences sur ce qui se passe aujourd'hui. Alors notamment, première acquisition dont on va parler, c'est celle de Nuance par Microsoft, qui est cette société qui se base sur la reconnaissance vocale. On va voir pourquoi Microsoft les a rachetés. On va voir quel mouvement c'est en termes d'acquisition. C'est une grosse acquisition. On va vous parler aussi de Nvidia, qui a annoncé des nouveaux processeurs. Vous le savez, Nvidia a initié et bientôt finalisé le rachat de ARM, la société qui dessine les puces avec l'architecture mobile. Et donc, il nous présente une puce au format et à l'architecture ARM, mais qui n'est pourtant pas un processeur pour les mobiles. Bien au contraire, on verra ensemble ce que c'est. On a la Cour suprême des États-Unis qui s'est prononcée en conclusion d'un affrontement long de 10 ans. C'est les ennemis de 10 ans, Google et Oracle, au sujet donc d'un conflit juridique autour du code qui est derrière Android. On va vous réexpliquer tout ça. Et puis, on aura des news et rumeurs qu'on pourra évidemment vous dérouler et qu'on va commenter. Kassim, est-ce que tu es prêt à ce qu'on enchaîne toutes ces news?
Oui, je suis parfaitement prêt. Je suis parfaitement chaud pour parler de tous ces sujets d'actualité, surtout que tu sais très bien que parler de Microsoft, c'est mon dada dans la vie. Alors, vu qu'on commence par là, je pense que tu as mis ce sujet en premier pour m'appâter.
Exactement, pour te faire plaisir et t'appâter. Exactement. Alors, justement, Microsoft a sorti une fois de plus son carnet de chèques pour un gros chèque d'un montant de 19,7 milliards de dollars. C'est leur deuxième plus grosse acquisition. Ils sont connus pour racheter des acteurs qui peuvent vraiment leur servir dans leur activité. Et là, il s'agit donc de Nuance, comme je vous le disais, qui est une société qui s'appuie sur la reconnaissance vocale. C'est un de leurs plus gros rachats. Pourquoi est-ce qu'ils rachètent Nuance, selon toi, Kassim?
Oui, c'est vraiment un de leurs plus gros rachats. D'ailleurs, c'est assez passé. Ça a été relayé dans la tech, juste comme ça. Voilà, ils ont racheté un truc sans plus d'emphase que ça, alors que c'est le second plus gros rachat de leur histoire, derrière LinkedIn, pour quand même près de 20 milliards de dollars. Donc, c'est quand même vraiment pas rien. Et pourquoi ils ont racheté ça? Alors, ils ont racheté ça parce que déjà, Nuance, c'est vraiment un spécialiste de l'intelligence artificielle. On sait que Microsoft veut avoir des billes dans le domaine et du cloud et de l'intelligence artificielle. Et Nuance coche un peu ces deux cases. Et puis, par ailleurs, il y a un autre sujet, c'est le fait que ça fait longtemps que Nuance est partenaire de Microsoft, un partenaire privilégié. Ils ont longtemps travaillé ensemble. Et comment dire, d'ailleurs, Nuance avait aussi travaillé à l'époque avec Apple pour la création de Siri, pour la petite histoire. Si vous avez jamais entendu parler de Nuance, vous connaissez peut-être les logiciels Dragon, qui sont vraiment des logiciels de reconnaissance vocale qui sont très utilisés dans le monde de l'entreprise. Et la proximité de Nuance et Microsoft, elle vient aussi un peu de ça, de cette histoire commune de modèle économique commun, où longtemps Nuance en fait a vendu du logiciel en boîte, de la licence
Des bonnes
aux
vieilles
entreprises.
boîtes en carton.
Ouais, les bonnes vieilles boîtes en carton grand format là, qu'on entassait fut un temps. Et puis ils sont passés au modèle du service comme Microsoft, un peu avec Office. Donc, il y a eu cette même transition. Donc, je pense qu'il y a voilà, des synergies assez naturelles entre les deux entreprises qui expliquent en partie ce rachat. Et puis, je pense qu'il y a une vraie volonté de la part de Microsoft de mettre un poids plus important dans le domaine de la santé. Et c'est quelque chose dans lequel il me semble que Nuance est particulièrement connue, en fait, le domaine de la santé.
Ouais, Nuance, ça fait partie de ces entreprises qui sont très installées pour effectivement les professions donc de la médecine, de la santé, qui s'appuient sur ce type de technologie pour notamment rédiger à l'oral les comptes rendus d'entretien, les comptes rendus d'examen. En partie, hein, en tout cas, ils font pas tout avec ça, mais je sais qu'ils l'utilisent en bonne partie. Et c'est vrai que quand tu travailles dans le domaine de la santé, dans le médical, je pense que tu as envie de t'appuyer sur certains noms, certaines références, d'une part parce qu'elles sont garantes d'un certain respect, j'imagine, de la confidentialité au niveau des technologies, et que ce n'est pas des gros clouds qui sont mis à disposition de tous, mais aussi parce que bah, ça reconnaît relativement bien, il y a une certaine fiabilité dans un certain nombre de champs sémantiques. Et donc, j'imagine qu'effectivement, Microsoft avait envie de rendre plus durable cette activité, cette commercialisation, parce qu'en fait, donc Microsoft, ils sont déjà bénéficiaires de ces services-là sous l'angle d'Azure, du cloud. Mais évidemment, s'ils ont aussi la brique qui vient directement s'implémenter auprès de la santé, bah, ça rend beaucoup plus durable leur action et leur présence. Après, la question que je peux me poser, moi, et on va prendre un petit peu de recul sur les autres acquisitions de Microsoft, que tu connais bien, Cassim, c'est pourquoi est-ce que finalement Microsoft rachète des entreprises partenaires avec lesquels ils travaillent déjà aussi bien. On peut se dire finalement, c'est comme s'ils achetaient la vache alors qu'ils ont déjà le lait gratuitement. Mettez des guillemets derrière à peu près tous les mots que je viens de
Oula.
prononcer, mais grosso modo, aujourd'hui, ils ont des partenariats installés qui leur permettent de fonctionner de manière complète et de remplir leurs objectifs. Et ils vont racheter des entreprises pour lesquelles ils sont partenaires et ils ont déjà beaucoup d'avantages. Donc, pourquoi est-ce qu'ils font ça?
Alors, il faudrait demander à...
Et également dans le domaine du jeu vidéo, d'ailleurs. Enfin, c'est un sujet qui touche aussi leur activité dans le monde du jeu vidéo.
Il faudrait demander à Nadella. Non, je pense que déjà, Microsoft a gagné énormément d'argent avec l'année 2020. Ça a été un des grands gagnants du confinement et des périodes de télétravail sur toutes leurs activités, que ce soit Office, Teams, etc. pour le monde professionnel. Ou, comme tu l'as dit, avec Xbox, pour le monde des particuliers, avec les PC vendus aux particuliers et les jeux vidéo avec Xbox, ils ont été gagnants un peu sur tous les tableaux. Donc, ils ont plein d'argent. Et donc, ils ont plein d'argent à dépenser pour faire des rachats stratégiques. Et pas dépenser de l'argent en l'air, hein, mais dépenser de l'argent.
Oui, ils ne le
voilà.
dépensent pas pour le dépenser, quand même.
Non, c'est plutôt voilà, pour préparer l'avenir et se renforcer sur des activités qu'ils considèrent vraiment prometteuses. Le jeu
bon,
vidéo.
Et puis la santé, on imagine que ce n'est pas un domaine dans lequel il va y avoir un écroulement dans les années et les dizaines d'années à venir, d'ailleurs.
Oui, non, clairement pas. Et puis le jeu vidéo, d'autre part, où en ce moment, il y a une vraie guerre de contenu qui est en train de se démarrer, ou qui se renforce en tout cas. Un peu comme ce qu'a connu le monde de la télé ou du cinéma avant, où le contenu est devenu roi, et donc ils ont fait beaucoup de rachats pour renforcer leur catalogue de contenu, beaucoup de rachats de studios, dont ZeniMax pour quand même 7,5 milliards de dollars. Et c'était il y a que quelques mois, donc ils enchaînent les rachats quand même de taille assez importante. On sait qu'ils ont encore le rachat de Discord en ligne de mire, en tout cas ils sont en négociation a priori. Avancé avec Discord pour un rachat à 10 milliards de dollars qui serait clôturé, enfin qui, en tout cas, qui serait dévoilé en avril a priori si les négociations ne tombent pas à l'eau. On sait qu'ils ont essayé, ça c'est public, de racheter TikTok quand TikTok était dans le viseur de Donald Trump l'année dernière.
On l'avait tous oublié cette histoire. On n'a jamais rien compris à l'histoire de TikTok et la conclusion est aussi nébuleuse que l'actualité qui s'est passée autour de TikTok.
Mais non, mais voilà, ça montre que Microsoft avait vraiment beaucoup d'objectifs de rachat. Et puis il y a eu la rumeur d'un rachat de Pinterest qui n'a pas abouti, mais qui était quand même chiffré à plus de 50 milliards de dollars de mémoire. Donc, voilà, Microsoft a les capacités en tout cas d'investir. Et s'ils font ça, à mon avis, pour répondre à ta question, c'est pour renforcer tout simplement leur activité. Alors là, on l'a dit dans la santé connectée, mais encore plus, c'est pour se garantir d'avoir des entreprises qui sont dans leur cloud. Là, avec ce rachat, ils garantissent qu'à terme, toutes les solutions de Nuance tourneront chez Azure et pas chez Amazon ni chez Google. Et tous les clients de Nuance iront chez Microsoft de facto plutôt que chez Amazon ou Google pour leurs données, en fait.
Ouais, ce qui est intéressant, c'est que ce soit dans le cadre du jeu vidéo ou de tous les autres rachats, c'est qu'est-ce qui peut faciliter le fait d'amener et de garantir dans le temps le fait que les gens se connectent au cloud de Microsoft,
c'est ça.
Finalement.
C'est exactement ça.
Un point qui est intéressant, c'est d'identifier le fait que Satya Nadella est vraiment axé autour de ses développements, autour de ses acquisitions, ce qui contraste un petit peu avec peut-être le précédent CEO. Alors c'est là encore, hein, tirer des grandes lignes, il y a probablement plein de petits contre-exemples que vous allez pouvoir sortir. Mais c'est vrai que c'est assez fréquent de voir ces grandes entreprises qui fonctionnent par alternance de stratégie de par leur CEO. Je m'explique, très souvent on constate le fait qu'un manager d'une telle boîte va avoir une politique plutôt à l'économie, plutôt à essayer de réduire les coûts, essayer de se constituer un trésor de guerre, et derrière se voir succéder un CEO qui va, lui, investir cet argent qui a été mis de côté et le remettre en scène pour pérenniser encore un peu plus l'entreprise. C'est évidemment très schématique ce que je décris, mais j'ai l'impression que c'est quand même une mécanique qu'on constate à long terme pour les entreprises qui ont une grande durabilité. Là aussi, il y a probablement plein de contre-exemples d'entreprises qui n'appliquent pas ce schéma-là. Et puis, ce n'est pas un schéma qui est écrit, hein, c'est un schéma qu'on constate, mais qui n'est pas forcément explicitement réfléchi à ces échelles-là. Je ne sais pas si tu partages cette réflexion, toi, Cassie.
Oui, complètement. Bah, surtout en particulier, on le constate vraiment bien avec Microsoft, qui a alterné, qui a connu que trois CEO jusqu'à présent. D'abord, Bill Gates en ingénieur, puis surtout Steve Ballmer en bon commerçant et financier.
En gestionnaire,
et qui a fait quand même... Je sais qu'on critique souvent Ballmer, mais mine de rien, il a fait vraiment grandir l'entreprise et l'a renforcée lui a fait gagner énormément d'argent, en fait. Et c'est derrière, en passant le relais à Nadella, qui est beaucoup plus visionnaire, je pense, mais qui... du coup peut profiter en fait du travail de Ballmer pour mettre en œuvre sa propre stratégie et justement sa vision. Mais c'est intéressant, ouais, de voir l'évolution, le chemin qu'a pris Nadella depuis qu'il est arrivé patron de Microsoft, et de voir l'évolution de la culture en fait des rachats de Microsoft. Ou comment ils ont, surtout depuis le rachat de Mojang, comment ils ont laisser les boîtes rester indépendantes, c'est assez fort sur ça, de voir en fait, enfin, comment il y a eu des rachats qui ont échoué, on peut le dire, à l'époque, ouais. Les Skype, les Nokia et d'autres, dans le domaine du jeu vidéo aussi, ils ont racheté beaucoup de studios, il fut un temps, qui sont quasiment tous fermés aujourd'hui, tu vois. Et à l'inverse, depuis le rachat de Mojang, ils ont eu la bonne idée en fait de les laisser travailler en autonomie, ne pas vouloir absolument les intégrer à la culture de Microsoft. Et parce que ça n'aurait pas eu de sens, et du coup des sociétés comme LinkedIn ou comme GitHub aujourd'hui, je pense qu'il y a encore beaucoup d'utilisateurs qui sont même pas au courant que LinkedIn ou GitHub appartiennent à Microsoft, et heureusement quelque part. Et tu vois, ils n'ont pas au bout de deux mois fait en sorte que GitHub, tu sois obligé de te connecter avec ton compte Microsoft pour arriver sur GitHub, tu vois, c'est typiquement...
Et ça n'arrivera probablement jamais, quoi.
Ou en tout cas à très long terme, et parce que la synergie, ça arrivera au moment où ce sera si ça doit arriver, ce sera naturel au moment où ça arrivera, tu vois. Ce sera arrivé parce que les synergies seront renforcées, Et parce que évidemment, ils rachètent pas non plus les boîtes pour totalement ne rien en faire. Il y a quand même une convergence avec la stratégie de Microsoft. Mais la synergie devient plus naturelle en fait, et c'est moins une culture intégrée à marche forcée comme ce fut le cas auparavant. Mais je pense que voilà, il y a un parallèle. Enfin, pour revenir à ton analyse sur les patrons, il y aurait un parallèle à faire de ce côté-là chez Apple. Ouais. Avec le passage entre Steve Jobs et Tim Cook, même si Tim Cook, en étant patron depuis plus de 10 ans d'Apple, a eu le temps de prendre le relais presque de lui-même entre le Tim Cook qui a énormément renforcé la puissance d'Apple et en a fait une marque monde bien au-delà de ce que je pense Steve Jobs aurait été capable de faire. Même avec la meilleure vision du monde qu'il avait, Tim Cook avait voilà ce côté presque tacticien, enfin je trouve dans sa façon de gérer Apple en début en tout cas de son arrivée à la tête d'Apple. Et puis derrière, Tim Cook a réussi à aussi créer une nouvelle culture pour Apple et à donner plus un nouvel ADN presque. Aujourd'hui, Apple est devenu synonyme culturellement de vie privée, d'écologie. Enfin, ils ont en tout cas réussi à mettre plusieurs sujets en avant au cours des dernières années. Aussi,
des valeurs
et des transformations autour de leurs produits, de services. Il y a beaucoup plus de services Apple, beaucoup plus d'accessoires, etc. Je vais arrêter de digresser, mais voilà, il y a vraiment. c'est vraiment intéressant de voir l'impact que peut avoir justement une vision, une stratégie sur une entreprise. Microsoft et Apple, je trouve, sont des bons exemples de ce que tu indiquais, quoi.
Ouais, il y a aussi un enjeu, je pense, hein, aussi dans l'acquisition de ce type de grandes entreprises avec des tels montants. C'est qu'évidemment, d'un point de vue politique, la tech américaine est scrutée. On parle parfois de démantèlement. On pointe du doigt le fait qu'il y a trop de synergies qui sont faites entre différents services. L'intégration, par exemple, d'un WhatsApp ou d'un Instagram dans la plateforme Facebook est assez à l'inverse de ce qu'on est en train de décrire. Et j'ai le sentiment quand même que c'est la bonne démarche quand tu fais des telles acquisitions dans la mesure du possible et selon les stratégies, hein, mais de les garder indépendantes, même si ça peut avoir certaines réserves. Je pense notamment à Google qui avait acquis Waze et qui ne l'a pas intégré nativement dans ses équipes, en tout cas pas très fortement, et les outils ne sont pas trop mutualisés. C'est vraiment deux choses assez différentes, Google Maps et Waze. Il y a des parties communes, mais il y a quand même beaucoup de parties différentes. Par exemple, le parc d'annuaires en tant qu'entreprise, il faut le gérer explicitement sur Google Maps, explicitement sur Waze pour avoir ta présence qui soit bien faite. Tu ne peux pas t'appuyer sur un service pour qu'il soit répercuté sur l'autre. Et donc ça, c'est un exemple d'intégration qui n'a pas été fait dans l'écosystème de Google, mais qui n'en a pas forcément profité à l'inverse. Alors, dans la famille des grandes acquisitions de la tech, ça nous permet d'enchaîner avec un autre exemple d'entreprise qui laisse son acquisition vivre sa vie et montre bien à quel point l'acquisition ne va pas changer le fonctionnement. Bon, derrière cette présentation un peu cryptique, je veux bien évidemment parler d'NVIDIA, qui a acquis ARM, qui est tout à la fois la société et l'architecture qui est proposée par cette société, des processeurs. Alors, les processeurs ARM, c'est évidemment les processeurs qui sont très économes au niveau de leur consommation d'énergie, qu'on retrouve dans nos smartphones. C'est aussi l'architecture des fameux Apple M1, donc les processeurs qui occupent les Mac depuis quelques mois maintenant et qui recueillent beaucoup de retours positifs de la part de la presse tech. Donc NVIDIA est en phase de finaliser le rachat de ARM. Et propose en parallèle, n'y voyez pas nécessairement un lien de cause à effet, mais présente en parallèle un processeur pensé pour les serveurs et pour l'intelligence artificielle. Donc là, pour le coup, c'est vraiment pas un processeur qu'on va retrouver pour le coup dans les smartphones demain ou dans des consoles portables, mais c'est un processeur, donc encore une fois, architecture ARM, qui est pensé pour délivrer beaucoup plus de puissance pour entraîner des modèles autour de l'intelligence artificielle. Il y a deux clients qui sont déjà d'ores et déjà annoncés en même temps que cette présentation, notamment un supercalculateur suisse et puis un laboratoire américain à Los Alamos. Donc NVIDIA qui fait cette première présentation d'un processeur ARM, encore une fois, pour les serveurs et à grosse efficacité. pour les modèles d'intelligence artificielle. Il s'appelle Grace, pour la petite anecdote, c'est en référence à la personne, à l'ingénieur qui a développé le COBOL, qui est un vieux langage maintenant. Et donc c'est Grace Hopper, une informaticienne qui a contribué notamment au premier compilateur du début des années 50. Ça, c'est pour la petite minute culture. Cassim, comment est-ce que tu vois cette annonce de la part d'NVIDIA? Encore une fois, il faut décorréler le fait qu'ils aient racheté ARM avec la présentation de ce processeur, parce que tout porte à croire qu'ils n'ont pas attendu d'avoir racheté ARM ou d'avoir annoncé un rachat de ARM pour lancer le développement de ce processeur. C'est quelque chose qu'ils ont fait avant, mais quand même, il y a là aussi une synergie à y faire, et en même temps des messages qui sont lancés à l'industrie pour dire vous inquiétez pas, on va pouvoir continuer à bosser, vous allez pouvoir continuer à bosser avec l'architecture ARM aussi comme vous le faisiez avant, sans problème, ça va continuer.
Oui, c'est exactement ça. C'est d'abord, clairement, NVIDIA a un pied depuis longtemps dans l'écosystème ARM. On peut l'oublier facilement, mais déjà, ils étaient dans les smartphones il fut un temps. Bon, ça, c'est pour ceux qui se souviennent des premiers smartphones. Mais sinon, plus récemment, par exemple, la Nintendo Switch, c'est une console qui utilise une puce Tegra ARM. Pour le processeur et donc Nvidia pour la partie graphique, mais c'est bien Nvidia qui commercialise cette puce à Nintendo, donc ça fait longtemps qu'ils l'utilisent, et la première itération de Grace, elle est un peu issue de ce travail. C'est
au passage, Tegra, on a aussi du mal à s'en rendre compte, c'est depuis 2015, hein, donc c'est pas ça veut dire que Nvidia non seulement fait ces processeurs là mais les fait depuis longtemps. Là où c'est nouveau, c'est des processeurs qui sont pensés pour les serveurs et pensés pour les architectures d'intelligence artificielle pour ces serveurs.
Oui, ça, c'est à dire que vraiment Nvidia, on l'associe énormément à GeForce, on peut l'associer à Nintendo du coup, mais c'est en fait au-delà de ça, ça fait longtemps qu'ils travaillent et de plus en plus pour le secteur professionnel, pour le cloud et pour l'intelligence artificielle, avec des puces ultra spécialisées et très performantes pour ce qu'elles font. Et c'est peut-être une société dont on parle pas assez régulièrement, alors que c'est une des sociétés qui est en train de devenir les plus importantes au monde. Enfin, on le voit bien avec la pénurie à quel point les puces, c'est important. Et Nvidia, aujourd'hui, a une position de... pas de leader du marché, mais il fait partie des grands noms du marché. Et donc forcément, c'est intéressant de suivre ce qu'ils annoncent et ce qu'ils font. Là, ils ont eu leur conférence qui est la GTC, c'est une conférence annuelle, et qui est justement dédiée plutôt au cloud et à l'intelligence artificielle et au monde de l'entreprise plutôt qu'aux jeux vidéo, et dans laquelle ils ont notamment dévoilé leur roadmap pour les années à venir. Et on y découvre que maintenant, ils ont vraiment trois lignes entre guillemets, de production, trois types de puces qu'ils peuvent commercialiser. D'abord, il y a les GPU avec Ampère, et ça, c'est donc les cartes graphiques, ce qu'on connaît bien, que ce soit pour le monde, le grand public ou les professionnels. Il y a les CPU, donc les processeurs centraux avec Grace, et justement, ça va se renforcer avec l'arrivée de ARM. C'est clairement dans ce tracé-là que l'acquisition va se jouer. Et puis, il y a les DPU qu'on connaît moins, nous, mais qui sont en fait des processeurs pour les data centers, qui sont spécialisés en fait dans le traitement des flux de données, parce que en fait on a des flux de données qui sont tellement importants dans nos centres de données maintenant que les processeurs peuvent plus les gérer. Les processeurs sont très généralistes, peuvent faire plein de choses et du coup sont moins doués pour certaines tâches précises, et notamment le traitement des données, c'est devenu beaucoup trop difficile à la vitesse où elles vont pour nos processeurs classiques. Et donc il y a des puces spécialisées, c'est les DPU. Et du coup, voilà, ils ont vraiment trois piliers maintenant, Nvidia. Et ils vont faire des cycles de un an, deux ans pour chacune de ces puces. Et on sent vraiment une stratégie très cohérente venant de Nvidia. Et ça, c'est pour vraiment la base du hardware. Mais ils ont aussi toute une stratégie au-dessus de ça, de logiciels, avec des API d'intelligence artificielle qui sont vraiment bluffantes. Je pense que la démo la plus concrète pour nous particuliers, parce qu'ils ont beaucoup de démos de, ah, j'ai oublié le nom de cette société. Ils ont beaucoup de démos de trucs d'infrastructures plus larges, genre quand tu veux créer, quand t'es un gouvernement qui veut construire un pont, tu vois, quel logiciel tu vas utiliser. Voilà, ils ont des solutions pour ça. Nous, ça nous parle peut-être moins, mais ils ont des solutions. Moi, quelque chose que j'ai plus retenu, qui est plus à mon échelle, c'est Maxine, dont ils avaient déjà fait la démonstration, qui est cet algorithme, cette intelligence artificielle qui permet en fait d'améliorer la qualité d'image dans les conversations sur les conversations visio, sur Skype, sur Teams, sur Google Meet, sur Zoom, etc.
Il y a un vrai enfant du confinement.
Hein. Oui, bah du coup, évidemment. Et qui permet en fait, à la place de recevoir une image avec plein de cubes, enfin plein de carrés de compression tout moche et où vous ne voyez à peine la personne qui vous parle, de recevoir une image plus clean. Et en fait, c'est pas tant l'image plus nette que l'on reçoit que des informations vectorielles et de construction en fait du visage qui ont été captées au moment chez l'interlocuteur. Et en fait, l'intelligence artificielle va réussir à quasiment reconstruire le visage de votre interlocuteur tout en améliorant l'image pour presque recréer voilà, son animation faciale pour avoir une image qui est beaucoup plus nette, beaucoup plus haute définition, qui est du coup un peu plus artificielle très logiquement, mais l'intelligence artificielle est là pour masquer ce problème et du coup créer quelque chose qui va nous sembler plus naturel et surtout... qui va nous permettre de voir le visage de la personne de façon nette dans un cas où la connexion Internet ne permettrait pas.
Donc c'est beaucoup plus économe en énergie d'ailleurs, même oui. Si on a beaucoup de connexions Internet. La question de l'efficience et de l'utilisation optimisée des réseaux est aussi un sujet, donc c'est aussi pertinent là-dessus de toute façon. C'est vrai.
Tout à fait. Et donc toujours est-il que Nvidia avait des choses assez bluffantes à présenter. Et tu parlais de partenariats importants. Et d'ouverture en tout cas, ARM clairement est connu pour. Il y a mon chat qui est en train de faire le fou en fond. Il y a ARM qui a toujours eu un écosystème relativement ouvert où des partenaires peuvent venir justement intégrer leurs propres solutions. C'est ce qu'a fait Nvidia depuis un temps avec Tegra. Bah là, Nvidia clairement avec leurs annonces indique que ça va continuer. Ils ont annoncé un partenariat avec Amazon par exemple pour créer un processeur commun pour les serveurs Amazon. Ils ont un certain nombre voilà, de partenariats. Moi, je voulais aussi mentionner rapidement MediaTek, qui est un fabricant de puces pour smartphones et pour Chromebook, et avec lequel ils vont donc créer une puce commune qui aura un processeur MediaTek et une partie graphique RTX 3000. Donc, ça arrivera bientôt dans des Chromebooks. Donc, ça montre, ça augmente la compétitivité dans le marché du PC, la diversité qu'on va avoir, j'ai l'impression, avec toutes les puces que le marché du PC ne connaissait pas auparavant. On va en reparler plus tard du marché du PC en plus. Et justement, c'est passionnant à suivre après des années où Intel était un peu seul sur le marché et Nvidia aussi un peu en quelque sorte côté graphisme. Là, on a vraiment une sorte de retour de la concurrence entre ARM, entre Apple qui fait ses propres puces, entre Nvidia voilà, qui étend son écosystème et AMD qui revient un peu en force. C'est très intéressant à suivre en ce moment.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est alors ils ont pris la parole en disant que ce processeur, j'en reviens à Grace, le processeur d'Nvidia pour l'intelligence artificielle côté serveur, c'est un processeur conçu pour un usage bien précis, on l'a compris, et c'est pas un concurrent des processeurs x86. Cela dit, on peut quand même se demander, vu la tournure des annonces ces derniers temps pour les processeurs avec l'architecture ARM, comment ça va se modéliser à l'avenir. On le suivra ensemble. En tout cas, cette nouvelle version, ce nouveau processeur ne devrait pas être disponible a priori avant 2023. Donc là aussi, ils ont présenté une architecture qui va mettre un petit peu de temps à arriver. D'autant plus, encore une fois, comme tu le disais, qu'il y a la crise des processeurs qui doit bousculer un petit peu ces prévisions-là. On va mettre de côté un petit peu les rachats et on va s'intéresser à un autre sujet emblématique de cette semaine. C'est celui qui conclut un affrontement vieux de 10 ans. Cassim, on était très très jeune il y a 10 ans, toi et moi. On était encore bien loin de toutes ces préoccupations. Et en tout cas, a commencé à se dessiner un affrontement à l'époque entre Oracle et Google. Alors pourquoi, même si on ne va pas pouvoir redétailler l'ensemble de cette histoire, ce serait beaucoup trop long de résumer même 10 ans et beaucoup trop compliqué de résumer 10 ans d'interaction judiciaire en quelques minutes. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que Google, en développant à l'époque Android, en tout cas Google a racheté Android à l'époque et a hérité de la façon dont a été fonctionné, dont a été développé Android, à savoir les personnes qui ont codé Android ont utilisé un peu plus de 12 000 lignes qui étaient 12 000 lignes de code qui avaient été écrites par Sun Microsystems dans le cadre de, des applications Java, et Sun Microsystems a été racheté par Oracle. Alors là, on parle bien encore une fois d'affrontements d'entreprises qui ont racheté des sociétés qui sont à l'origine du conflit qui les concerne. En gros, il a été question de la part d'Oracle de pointer du doigt le fait que côté Android, il n'aurait pas dû utiliser ces 12 000 lignes de code sans payer un droit en matière de propriété intellectuelle. Donc il y a eu plusieurs arbitrages juridiques qui tantôt arbitraient en faveur de Google, tantôt en matière en faveur d'Oracle. Là, c'est arrivé au niveau de la Cour suprême des États-Unis, donc la plus haute instance juridique, de laquelle normalement les arbitrages ne reviennent évidemment pas, en tout cas pas sous leur forme telle que c'est présentée. Et la conclusion est arrivée en faveur de Google, donc un arbitrage qui vient derrière la position de Google, à savoir bah non, nous n'avons pas à payer de royalties en ayant exploité du code qui avait été développé pour Sun Microsystems. Et ça conclut d'ailleurs une position qui était soutenue par plusieurs entreprises de la tech qui étaient derrière la position de Google, à savoir qu'on ne voulait pas tomber dans, on va dire, le brevetage du code source des API. En l'occurrence, c'était les API de Java. Finalement, c'est une conclusion qui va plutôt en faveur d'un dynamisme du développement de la tech, Kassim.
Oui, clairement. Enfin, c'est... C'est une affaire qui est, comme tu l'as dit, qui est assez ancienne, qui a vraiment connu son lot de rebondissements. Mais
on était grand comme le bébé de Patrick à l'époque.
oui.
Non, bon, un peu plus.
Peut-être pas quand même. J'espère. Enfin, du coup, c'est ce qui quand même nous donne un peu de crédit pour analyser tout ça. Non, pardon. Du coup, oui. Donc l'affaire est assez ancienne et. Elle était assez importante et c'est plutôt, enfin moi je le vois plutôt comme une bonne décision de la part de la Cour suprême effectivement, parce que c'est le cas contraire, un cas favorable pour Oracle aurait pu complètement, j'allais dire disrupter, mais je déteste ce mot.
Ouais, faut pas l'utiliser, on se l'interdit. Il aurait pu remettre en question plein de façons dont fonctionne la tech et notamment l'innovation d'ailleurs.
Oui, tout à fait. Et c'est, enfin, en fait, ça aurait été le point de départ en fait de beaucoup de problèmes potentiels pour beaucoup de boîtes de la tech, et du coup c'était un peu la boîte de Pandore, et du coup c'est plutôt bien que la Cour suprême voilà ait tranché plutôt en la faveur de Google. Je pense que ça aurait pu être une boule de laine dont on aurait pu tirer après la corde pendant longtemps. Pour créer et qui aurait pu créer bien des problèmes, je pense, en termes de propriété intellectuelle, pardon, dans le logiciel.
Tout à fait. Mais je pense que c'est d'ailleurs ce qui a motivé l'arbitrage de la Cour suprême des États-Unis. Il se prononce pas d'ailleurs, hein, je crois, spécifiquement sur le fait. En fait, ils arbitrent surtout ce sujet-là. Ils veulent pas non plus tirer des conclusions trop larges sur ces notions de propriété intellectuelle sur du code source. Donc, on sent que c'est un sujet sur lequel ils veulent pas trop non plus aller dans l'autre sens, créer trop de précédents. Mais en tout cas, il était quand même question d'arbitrer définitivement sujet en prenant en compte ce qui semblait être le plus, d'une part, réaliste et surtout ce qui était le plus favorable à la manière dont fonctionne la tech et l'innovation aujourd'hui. Donc tant mieux, ça a rassuré beaucoup de monde. Un autre sujet tech phare qu'on peut vous partager. Alors, on vous disait tout à l'heure, je ne sais pas si on a assez souligné cet aspect des choses, mais quand on parlait tout à l'heure du rachat de Nuance par Microsoft, c'est un rachat très conséquent en matière de valorisation. C'est près de 20 milliards de dollars, comme on le disait. Et pourtant, ce n'est pas un sujet... Alors, il est sorti tout récemment, hein, mais ce n'est pas un sujet qui a fait une espèce de raz-de-marée et d'écho incroyable dans l'actu tech. Par contre, on a beaucoup plus parlé, je trouve, dans l'actu Tech, de la présentation de l'avancée des travaux de Neuralink, qui est cette entreprise d'Elon Musk, dont la proposition est de faciliter la communication par la pensée. Donc de plus facilement capter les intentions de la part de notre cerveau et également de donner des instructions par la pensée. Alors, c'est un sujet, je trouve, qui a fait beaucoup de rebondissements, à croire que qui a eu beaucoup d'échos, à croire que la partie communication est très importante. Ce serait pas très étonnant pour une activité de la part d'Elon Musk. En tout cas, de quoi il s'agit ? On a vu un singe qui joue aux jeux vidéo. Dans un premier temps, on le voit jouer à un exercice sur une télé. Il manipule un joystick qui consiste à déplacer un petit repère visuel façon pâté de pixels blancs dans un carré orange. Donc, bon, il y arrive plutôt bien. Il a une récompense, ce qui le motive à faire bien son travail. Et puis, petit à petit, il avance tellement bien que bah, on peut carrément lui débrancher le smartphone et il a la manette. Excuse-moi, le lapsus. Et donc on peut lui débrancher la manette et il continue à vachement bien faire l'exercice alors que physiquement ses instructions manuelles n'ont aucun impact sur le système. Et pourquoi ça marche ? Et bien parce que ce singe a été équipé de technologie Neuralink auprès de son cerveau et au lieu de capter les instructions avec la manette et avec sa main, et bien sont captées les instructions directement depuis le cerveau. Alors le singe ne voit pas la différence. On sent bien d'ailleurs que le mouvement du repère visuel à l'écran n'est pas tout à fait le même. On sent que c'est peut-être un peu moins droit qu'il peut le faire avec le joystick. En tout cas, il y arrive très très bien, il y arrive très vite, il y arrive tellement bien qu'on arrive même après à le faire jouer à Pong. Et là encore, il joue à Pong évidemment sans instruction manuelle, sans utiliser une manette, mais simplement par la pensée, sans s'en rendre compte. Moi, j'ai trouvé cette démonstration alors à la fois assez bluffante sur le plan technologique, on parle quand même de donner des instructions par la pensée, Kassim, c'est quand même assez magique, et en plus, j'ai trouvé ça très parlant d'un point de vue communication. J'avais été moyennement convaincu par la démonstration des trois petits cochons par Elon Musk, c'était la précédente présentation qu'il avait faite des avancées des travaux Neuralink. Là, j'ai été beaucoup plus convaincu. On peut aller assez vite émettre des réserves, mais quand même, toi, comment tu as aperçu cette démonstration ? Elle est très parlante quand même, elle est très, très convaincante.
Les trois petits cochons et le grand méchant loup. Non, mais déjà, bon, moi j'avais déjà été davantage convaincu par la fameuse démonstration des trois petits cochons. Et après, j'ai été encore un peu plus bluffé, effectivement, par la démonstration ici avec le singe. Je suis toujours un peu partagé sur Neuralink parce que
bon, déjà sur les activités d'Elon Musk en général.
Parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent. Oui, et déjà parce que Elon Musk est quand même quelqu'un de sulfureux pour rester gentil, oui. Pour donner un terme vague qu'on aime bien, qui est un peu abonné quand même aux exercices de communication un peu faciles. Mais au-delà de bon après voilà faut au-delà d'Elon Musk, Neuralink ça reste très intéressant à suivre, notamment pour ce que ça pourrait permettre comme innovation. Et puis je suis content quand même qu'il y ait de l'argent, même s'il est privé, qui est investi dans ce domaine de recherche qui est quand même très important. On sait, enfin, l'accessibilité est de plus en plus au cœur des préoccupations, ce qui est très bien. Et il faut que ça continue, et Neuralink va permettre d'y contribuer. Mais je crois que tu as très bien suivi ça, mais Neuralink n'est pas du tout la seule société sur le sujet ni sur le marché. Ils ont Elon Musk ne s'est pas réveillé un matin en se disant mais si on faisait ça, et sans que personne n'y ait pensé avant. Il a juste un peu plus de talent pour vendre la chose, et surtout pour créer un effet de start-up qu'on a envie... En fait, j'ai l'impression qu'il a trouvé la méthode pour rendre un sujet technophile, en fait. Elon Musk, sur tout un tas de sujets, il a évidemment d'abord avec la voiture électrique, qui est devenu beaucoup plus cool maintenant que Tesla s'y est mis, enfin, ou s'est lancé. Et d'autres sujets, que ce soit le déplacement des personnes ou SpaceX, voilà, il a transformé des choses qui étaient du domaine de la science et qui existaient déjà en des faits d'actualité tech, en fait.
Il a la capacité de faire hyper la tech, ouais,
ouais.
Clairement.
Ouais, voilà. Donc ça reste toujours intéressant à suivre. Voilà, faut juste souvent remettre en perspective des choses que lui il peut promettre. Et puis voilà, il y a tout. il y a tout le personnage derrière aussi qui peut déranger. Donc me déranger en tout cas.
C'est sûr que si on prend l'angle de la communication du personnage, il y a matière à dire. Notamment, il a tweeté dans la foulée de cette présentation. Il a dit les premiers produits Neuralink seront capables de permettre à quelqu'un de paralysé d'utiliser un smartphone avec leur esprit plus rapidement que quelqu'un ne le fait aujourd'hui avec ses pouces. Et c'est là où on tombe un peu dans le travers. Alors oui, je pense que l'intention, elle est celle-ci. Hein. Derrière Neuralink, il y a l'ambition de faire évoluer l'être humain pour que ses interactions technologiques soient encore plus avancées, peut-être encore plus simples, encore plus rapides. Il y a aussi, effectivement, tu as raison de l'évoquer, l'envie d'aider les personnes qui sont paralysées, par exemple, sur lesquelles il y a probablement beaucoup d'innovations à apporter. Mais il y a quand même, dans ce type de prise de parole, quelque chose d'un peu sulfureux qui laisse imaginer que le produit va se vendre par carton qui va très prochainement et qui va révolutionner les usages de tout un chacun. Et c'est d'une part pas si simple, c'est pas parce que il y a cette avancée qui est présentée, qui est très convaincante, et finalement à l'échelle de Neuralink c'est très rapide, puisque si je dis pas de bêtises, Neuralink c'est il y a 3-4 ans que ça a été créé, donc ça va quand même très très vite, ça c'est sûr. Mais par contre, il y a aussi, il faut le garder à l'esprit, il y a plein d'innovations de ce même type qui se font dans le domaine de la santé et qui sont évidemment moins bien packagés parce que c'est pas Elon Musk qui est derrière, mais des implantations d'interfaces qui essayent de comprendre la manière dont s'exprime le cerveau avant que les gestes soient menés. Bah, y a plein d'innovations dans ce domaine-là et plein de recherches surtout. Donc prenons tout ça avec des pincettes, il faut prendre ça comme une belle avancée technologique. Moi je trouve que c'est aussi une belle démonstration de communication autour de l'avancée technologique, mais à remettre en perspective bien évidemment. On va faire une petite pause, Kassim, avant de passer aux news et rumeurs, pour rappeler quelque chose d'assez fondamental dans le rendez-vous tech. Bon, d'une part, c'est animé par quelqu'un de talent. Même dans les émissions dans lesquelles il n'est pas là, c'est forcément des gens de talent qui animent l'émission. C'est donc pour te dire à quel point c'est une émission de qualité, mais c'est surtout une émission qui est financée par ses auditeurs. Oui, le podcast est disponible gratuitement à tout le monde, mais il est aussi ouvert aux personnes qui souhaiteraient aller plus loin dans le soutien de l'émission, au travers par exemple de la plateforme Patreon. Donc Patreon, c'est ce qui permet de contribuer à la hauteur de quelques euros, quelques dollars pour soutenir l'émission et contribuer à générer un véritable revenu et à pérenniser le podcast. On peut citer notamment, avec des applaudissements, Slimane Kedji, Muji3D, Grégory Schuweller, Anodouane, c'est mieux avec Anodin, je pense, Baptiste Hébert et Roshi. Merci beaucoup à vous de soutenir l'émission. Vous contribuez notamment à permettre à Patrick d'être un papa qui finance sa famille et qui s'équipe pour ses enfants, et notamment qui leur achète des couches, des biberons. Tu sais, Kassim, j'ai l'expérience d'avoir deux enfants. On se dit la première fois qu'on a un enfant, c'est beaucoup de dépenses. On se dit quand on attend le deuxième qu'on va pouvoir mutualiser plein de choses qu'on a achetées avec le premier enfant. En fait, c'est pas vrai. On se retrouve à se rééquiper complètement. Donc aidez Patrick dans sa démarche de papa version 2 et contribuez au financement de l'émission.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Oui, c'est Cassine. Non mais c'est bien pour c'est pratique quand même de pouvoir manger et tout ça à la fin du mois, donc c'est quand même pas inutile.
C'est pas mal
de soutenir l'émission, je pense.
C'est quand même pas inutile. Et merci Cassim de ne pas avoir relevé le fait que j'allais dire qu'il finançait des enfants, ce qui était parfaitement déplacé. Allez, on va passer plutôt aux news et rumeurs. On parlait d'Elon Musk. Elon Musk qui est derrière SpaceX, et ils ont compris pourquoi Starship version SN 11 s'est détruit dans les airs. C'était une explosion qu'on a tous vu passer. Ils savent un petit peu mieux pourquoi est-ce que ça a explosé. On ne va pas rentrer, nous, dans les détails de l'émission. C'est assez imbitable quand on rentre dans les explications techniques. Par contre, on sait que la version SN 12, 13 et 14 sont mis à la poubelle et qu'on passe directement à la version 15. A priori, les enseignements ont été tirés et on est dans de bonnes raisons de penser que les prochains essais vont mieux se passer. Et peut-être pourquoi pas, SN15 va réatterrir sans aucun problème. On suivra ça, c'est cool. On parlait tout à l'heure, et tu l'évoquais comme une forme de teasing du reste de l'émission, du marché du PC, quand on parlait des processeurs tout à l'heure. On a un indicateur qui nous montre que le PC est en bonne forme, voire même en forme exceptionnelle, avec une croissance de 55% donc pour le marché de l'ordinateur personnel en un an. Cassim, moi qui m'attendais un jour à ce que le PC disparaisse à la faveur de choses comme les tablettes, par exemple, bon, ça n'arrive toujours pas, voire même on s'en éloigne maintenant.
Non, mais là, je reconnais le client Apple.
Le fanboy iPad, c'est ça ?
Non, mais peut-être as-tu trop cru à une fable que Apple voulait raconter. Il fut un temps, début des années 2010, quand Tim Cook nous faisait croire que l'iPad
Steve
pouvait...
Jobs, hein.
C'est Steve Jobs d'abord, mais je crois l'anecdote de l'iPad qui sert à 100%, enfin qu'il n'avait plus besoin de PC, je ne sais plus si c'était Tim Cook ou Steve Jobs, j'ai un doute.
Mais il y a les pubs en tout cas, qui étaient diffusées il n'y a pas si longtemps.
Il n'y a pas si longtemps encore, il y avait des pubs pour de l'iPad dans les mains d'un enfant qui remplaçait... Et l'enfant ne comprenait pas à quoi pouvait bien servir un PC puisqu'il avait tout grâce à un iPad.
Bon, c'est 2000... quoi un ordinateur ?
2020 est passé par là, et 2020 a montré que finalement l'ordinateur c'est quand même pratique pour communiquer avec les gens, pour écrire, pour travailler. Et donc le PC va très bien. Le PC, oui, a une croissance assez exceptionnelle. On est sur quand même 83 millions d'unités vendues là juste sur ce trimestre, qui s'est terminé en mars. Donc 84 millions de PC quand même expédiés contre 54 millions il y a un an. Donc ça fait une belle croissance, et ironie du sort, c'est Apple qui en est le grand gagnant avec 111% de croissance, c'est-à-dire que quand même ils ont doublé leurs ventes littéralement entre le trimestre de l'année dernière et ce trimestre-là. En fait, tout simplement parce que ils étaient en fin de cycle. Faut toujours se souvenir que quand on parle de croissance, de modification en pourcentage, faut toujours faire attention. C'est très facile si tu vendais un exemplaire il y a un an et que tu en vends 5 aujourd'hui, d'avoir fait une multiplication par 5 de tes ventes, c'est incroyable.
Forcément. Mais quand même,
ça reste un chiffre impressionnant. Il s'explique parce que voilà, Apple était en fin de cycle l'année dernière et surtout a démarré son nouveau cycle avec une nouvelle génération de machines qui sont quand même assez impressionnantes avec ses propres puces Apple M1. Donc on a un renouveau clairement qui a bénéficié à Apple. Ça leur permet d'être quand même en quatrième position du marché devant Acer, mais derrière Lenovo, un indéboulonnable leader du marché du PC, et derrière HP et Dell aussi, donc les deux fabricants de PC américains.
Je me faisais la réflexion, qu'est-ce qui fait en fait qu'au final la tablette, ça n'a pas... Qu'est-ce qui fait que cette fable que je me racontais, hein, moi aussi, n'a pas fonctionné ? Je pense qu'il y a plein de raisons différentes qu'il faudrait qu'on mette les unes à côté des autres. Il n'y a pas une bonne réponse. Mais en fait, avec le recul, quand tu regardes naïvement l'évolution, tu te dis ce qui s'est passé pour le smartphone, pour le téléphone, d'avoir un écran comme ça qui remplace toute une interface physique, bah, ça n'a pas marché avec l'ordinateur. Donc c'est intéressant de voir que la transition ne s'est pas faite sur la tablette et que le PC reste bien implanté.
Après, je grossissais évidemment le trait, mais évidemment qu'il y a certains métiers qui peuvent aujourd'hui se passer d'ordinateur ou qui peuvent en tout cas utiliser pour l'essentiel une tablette. Ou pour en tout cas certains segments de leur emploi ont pu faciliter énormément un process de travail pour la gestion des mails. Je sais que Patrick, par exemple, qui n'est pas là du coup, mais qui défendrait ardemment, j'en suis sûr, l'iPad, puisque je sais que pour la veille, alors autant l'enregistrement, c'est exactement ce que je suis en train d'expliquer, autant l'enregistrement de podcast, il le fait sur un ordinateur, autant pour sa veille, il le fait, il me semble, depuis un iPad. Et donc, ça montre que voilà, on peut trouver un juste milieu un peu entre ce que je disais tout à l'heure et là, quand même un certain avenir pour les tablettes. Mais le PC, on l'a peut-être enterré trop vite. Et il a encore de bons arguments pour lui. Mais justement, un PC aux côtés des tablettes plutôt que des tablettes qui remplacent les PC, je pense.
Ça, c'est clair. Pendant qu'on parle des tablettes, d'iPad, on va continuer un tout petit peu à parler d'Apple, avec notamment leur présentation, il y a de ça quelques jours, de l'ouverture. Alors attention, tiens-toi bien, Kassim, l'ouverture d'un service fermé. Je m'explique. C'est localisé, en anglais Find My, qui est alors une application, si vous êtes possesseur d'un appareil Apple, qui vous permet tout à la fois de géolocaliser, certes, votre appareil, mais surtout l'ensemble de vos appareils qui sont rattachés au même compte iCloud, voire ceux de votre famille, si vous avez un compte iCloud familial, si vous avez donné les bonnes autorisations. Et depuis peu maintenant, vous allez pouvoir géolocaliser autre chose que des produits Apple. Vous allez pouvoir géolocaliser des appareils qui accepteraient les conditions proposées par Apple pour construire des produits avec le bon cahier des charges. On peut donner par exemple l'exemple des vélos électriques de Vanmoof, je ne sais pas comment les prononcer, je dirais Vanmoof, qui sont des vélos électriques, ma foi, très beaux. J'ai découvert ça à l'occasion de cette news. J'ai découvert plein de choses sur les vélos électriques. Je me rends compte que c'est un marché incroyable. En tout cas, le fabricant propose donc une nouvelle version, et quand vous achetez un vélo Vanmoof, c'est comme si c'était un appareil Apple d'un point de vue de l'application localisée, c'est-à-dire qu'il peut très très facilement, vous pouvez très facilement le rajouter à votre écosystème de produits Apple qui sont surveillés avec le réseau localisé, Find My en anglais. Et la manière dont ça fonctionne, c'est que ça s'appuie sur le maillage des appareils Apple. Donc l'ensemble des iPhones, des iPads, des Macs qui ont activé le service de localisation discutent entre eux, ça on l'avait déjà décrit, pour géolocaliser des appareils. Donc si vous perdez demain votre iPhone, vous auriez la possibilité, s'il est identifié par d'autres appareils Apple qui sont activés, de savoir à peu près où est-ce qu'il est. Ça va être le cas maintenant pour les produits tiers. Donc c'est hyper intéressant de voir que d'une part, ils ouvrent ce service et qu'en même temps, ça reste très très fermé, puisqu'évidemment, il faut continuer à accepter plein de directives qui sont dessinées et définies par Apple pour rentrer dans le moule, quoi. Qui mieux qu'Apple pouvait proposer ce type de service ? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va s'ouvrir et se démocratiser, même tant qu'ils n'ont pas lancé des AirTags ? Bon, il se pourrait qu'ils nous présentent bientôt des AirTags, mais...
Évidemment, c'est un service qui a beaucoup de sens pour Apple. On voit aussi la semi-ouverture d'Apple qui est intéressante à suivre sous la stratégie de Tim Cook. Mais et puis le marché du vélo, effectivement, est en pleine expansion. D'ailleurs, le vélo en question... Il me semble que le Vanmoof, on l'a testé sur Frandroid, donc vous allez retrouver notre test. Petite pub. l'instant promo. Mais plus sérieusement, pour Apple, après, il y a d'autres services qui proposaient un peu déjà ce genre de service, justement. Mais c'est sûr que c'est toujours plus fort quand c'est Apple qui le propose, parce que l'écosystème est derrière et là. Et que tu peux plus facilement le mettre à disposition des particuliers, du grand public, directement l'afficher sur leur téléphone. C'est beaucoup plus direct. Et donc ça a beaucoup de sens. Et je sens que tu voulais que je fasse la transition habile l'événement du 20 avril, a priori, d'Apple. Je dis a priori parce qu'au moment où on enregistre Apple... Je peux pas dire que on peut pas dire qu'Apple ait vraiment confirmé l'événement, mais quelqu'un de chez Apple l'a fait. ou quelqu'une, ça dépend comment vous l'avez configuré. C'est Siri qui apparemment répond aux États-Unis aux questions des gens. Et quand on lui demande quand est-ce qu'est le prochain Apple event, Siri répond le 20 avril. Donc on devrait très rapidement avoir des nouvelles d'Apple. On imagine que ce serait donc pour la présentation des AirTags, peut-être enfin. Je ne sais pas pourquoi ça m'évoque des saucisses quand je dis AirTags, mais sinon.
J'y avais pas pensé.
Sinon, je pense qu'il doit y avoir, a priori, d'après Bloomberg, les nouveaux iPad Pro avec un écran mini LED. Mais il paraît que la production serait difficile, comme tout en ce moment. La pénurie, décidément, va causer bien des soucis dans la tech tout au long de l'année.
Et des iPad mini, mais pas repensés sur leur format. A priori, ce serait exactement le même que les iPad mini actuels. Ils seraient évidemment revus à l'intérieur, j'imagine. Et peut-être des AirTags, on verra. Bon, comme c'est une rumeur, pas quelque chose d'officiel, on hésiterait presque à le relayer. Comme c'est annoncé pour mardi 20, ce serait dans une semaine. Donc évidemment, il est possible que la semaine prochaine, vous ayez des infos autour des annonces Apple. Très rapidement, quelques infos plus à l'échelle de l'Hexagone, de la France, Kassim, avec l'armée française qui a présenté des essais qu'ils font avec des robots, notamment les fameux chiens robots de Boston Dynamics, et d'ailleurs un robot avec des grosses roues et un gros bouclier qui protège les troupes lorsqu'ils essayent d'avancer. Alors en soi, le fait que des armées de pays industrialisés fassent des tests avec des robots, bon, on l'imagine tous, ce qui est sympa, c'est juste de voir qu'ils communiquent sur le sujet et qu'ils montrent en quoi ça pourrait nous aider, ça pourrait aider l'armée plutôt, donc c'est intéressant de suivre ça et puis de voir des mises en œuvre concrètes. On n'est pas dans la mise en œuvre de contrats tels que ceux de Microsoft avec HoloLens et l'armée américaine, mais quand même c'est intéressant à suivre. Et à l'échelle de la France, on a aussi des infos autour de la nouvelle stratégie pour lutter contre le piratage des œuvres sur Internet. L'Adopi, telle qu'elle existait, va fusionner avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA, pour constituer l'ARCOM. L'ARCOM, on dirait, tu sais, une corporation du futur américaine, armée, je ne sais pas, ARCOM, ça me fait penser à
oui,
ça.
Oui, et puis dans un futur un peu négatif, du coup.
Exactement, exactement. Alors, bon, peut-être que ça teinte un peu notre impression de cette proposition. En tout cas, au-delà de cette fusion, l'idée, c'est de continuer à lutter contre le piratage, j'allais dire même donner un second souffle à la lutte contre le piratage, spécifiquement d'ailleurs en ne bossant spécifiquement pas sur le peer-to-peer. En gros, Adopi travaillait beaucoup sur les échanges en peer-to-peer et du coup, cette nouvelle stratégie vise à s'attaquer au streaming et au téléchargement direct et notamment derrière en proposant, en essayant de mettre en œuvre des blocages plus facilement de certains services qui pourraient être accessibles en ligne. Sont aussi évoqués les outils de type IPTV. On a vu notamment Neymar qui s'est fait avoir en partageant lui sur les réseaux sociaux le fait qu'il regardait un match du PSG en utilisant du streaming illégal, vraisemblablement une IPTV. Dommage. Kassim, je ne sais pas si ça t'inspire quelque chose de positif ou d'inquiétant, cette nouvelle stratégie.
Moi, j'ai toujours été un peu échaudé par les mesures anti-piratage qu'on pouvait prendre en France. J'ai toujours un peu l'impression que c'est en retard et surtout pas forcément très pertinent au regard de ce qu'il faudrait faire en fait pour diminuer ce comportement. Je trouve ça logique de vouloir lutter contre le piratage. C'est juste en général que c'est juste c'est passé la façon dont c'est fait qui me pose des soucis. Donc j'espère que là ce sera pour le mieux et que ça n'ira pas de pire en pire, mais je voulais la placer. Non, mais plus sérieusement, j'aimerais savoir à quel point le piratage. Alors effectivement, l'IPTV, c'est un vrai marché. J'ai l'impression qui a un public fort, mais j'aimerais bien savoir à quel point c'est des vraies pertes d'argent. Qu'est-ce qu'on investit ? Enfin, quelle somme on investit pour lutter contre ça ? Contre quelle somme pour éventuellement défendre combien de sommes, avec quel lobbyisme derrière, et c'est un peu ce genre de choses qui m'inquiète en général. dans ce genre de sujet. Parce que ça a trait en plus à l'exception culturelle française, donc c'est, ça attaque à des sujets qu'on a l'habitude de défendre au niveau de l'État français, je veux dire, et du gouvernement. Et du coup, donc ça peut être des sujets voilà, qui m'inquiètent, alors que j'ai l'impression que c'est surtout grâce à l'offre. En fait, avec le recul, on voit bien que Adopi a fait. Moi, ma conclusion, c'est qu'Adopi n'a pas servi à grand chose. C'est plus l'arrivée de Netflix ou des services d'offres légales pertinents qui ont été beaucoup plus forts contre le piratage que des services comme Adopi qui ont été plutôt des gouffres financiers, d'après moi, en termes d'argent public. Mais c'est mon avis très personnel.
Oui, non, bah, ça, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui écoute le podcast et qui sont d'accord avec toi, et je souscris en partie à ce que tu dis. Après, je pense aussi que la simple existence de ce type d'instance, le côté, ça peut faire peur au grand public, tu vois, à certains profils qui pourraient être tentés, qui se posent la question, est-ce que je devrais plutôt acheter un truc en ligne officiellement ou est-ce que je peux pas le pirater ? Je suis convaincu qu'il y a des personnes qui sont très aguerries en tech et qui vont savoir quelles réponses ils vont pouvoir se donner à eux-mêmes en toute connaissance de cause, mais peut-être que ça a aussi une influence, ça fait passer aussi un message qui est compréhensible, que le gouvernement n'est pas non plus complètement laxiste et n'est pas non plus du côté des pirates. Bon, après tout, c'est un petit peu l'histoire qui se répète. Espérons en tout cas que les effets de bord ne seront pas trop problématiques. C'était beaucoup le cas avec Adopi et ça a été très critiqué. Kassim, je voulais te remercier vraiment énormément de ta participation à cet épisode, de t'être rendu dispo pour qu'on parle ensemble de tech. Il est grand temps, tout simplement, de rappeler aux gens qui nous écoutent où est-ce qu'ils peuvent te retrouver s'ils veulent te suivre à titre individuel, s'ils veulent suivre ce que tu fais.
Ben, c'est toujours un plaisir hein, d'être là pour analyser tout ça. On peut me retrouver sur frandroid.com où j'écris tous les jours et il y a aussi je voulais aussi pointer vers mes collègues de Numérama et Mademoiselle et sinon on peut me retrouver sur Twitter @notkassim NOTCA2SIM.
Et moi, c'est Guillaume Vendée. Vous pouvez me trouver sur guillaumevendée.fr, notamment. C'est un site où je vais communiquer un petit peu tout ce que je peux faire. Vous me retrouvez aussi facilement sur les réseaux sociaux et notamment en podcast dans Tech Café, où on vous parle aussi d'ActuTech avec un angle très basé sur les enjeux de société. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir écouté cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout en acceptant de ne pas avoir la chaleureuse et si habituelle voix de Patrick, à qui on pense beaucoup, qu'on félicite évidemment énormément. On félicite aussi la maman pour l'agrandissement de la famille. En attendant, vous retrouvez normalement un épisode avec Jérôme Kainborg très prochainement, un épisode spécial, avant de retrouver la voix, comme vous en avez probablement hâte, de Patrick. Merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode. À très bientôt dans un prochain épisode de podcast. Ciao à toutes et à tous.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.